Il est 20h, Zoé Sfez.
Bonsoir Étienne Huvert.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous faites partie des Happy Few qui sont Albert Londres, prix Albert Londres que vous avez obtenu il y a quelques années, fondateur du collectif de journalistes Snug News. Et vous êtes là, donc je l'ai dit, parce que vous avez une belle actualité très russe. Vous co-signez avec Boris Razon un livre qui s'intitule « Les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes » qui est paru chez Stock en début de semaine. Et il y a un documentaire où le réalisateur Félix Seguer et la productrice Marina Ladouce, parce qu'elle est mise en scène, finalement mettent en scène ces 2 ans d'enquête que vous avez fait tous les deux sur ces hackers russes. Alors cette enquête, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, elle commence au moment où, pendant l'élection présidentielle, la campagne de 2017, l'équipe d'Emmanuel Macron est piratée par des hackers. Vous, à l'époque, vous ne travaillez pas du tout là-dessus.
On est sur le djihad.
Vous êtes sur le djihad, donc vous êtes déjà un petit peu dans les beautés de l'Internet.
Alors parce qu'on est sur les réseaux sociaux, déjà... À l'époque, on enquête sur les femmes et le djihad et on essaye de pénétrer cette djihadosphère, entre guillemets. Et à ce moment-là, autour de nous, on a des hackers qui viennent nous aider surtout à protéger nos communications, à protéger tout notre réseau informatique. Et puis, on commence à parler des hackers russes parce qu'il y a l'attaque du DNC en octobre 2016. Mm-hmm. Et puis, rapidement, il y a les Macron Leaks. Et puis, on parle à nouveau des hackers russes. Et on se pose une question à ce moment-là qui est, mais c'est qui ? On parle
c'est
de groupe.
Comment ils font ? C'est qui ? Et surtout, est-ce que, et c'est toute la question qui traverse, d'ailleurs, vous n'y apportez pas une réponse claire parce que la réalité est complexe, est-ce qu'ils travaillent pour le pouvoir ou est-ce qu'ils travaillent pour leur propre compte ? Faire un film qui s'appelle Les Nouveaux Mercenaires donne un élément de réponse à cette question. Il y a eu, vous l'avez dit, il y a eu l'attaque évidemment du Parti démocrate, celle des Macron Leaks, et puis, et c'est le point de départ de votre livre, on en a beaucoup parlé ici à Soft Power puisque ce sont nos questions, mais c'est une date que les gens connaissent parfois beaucoup moins bien dans le grand public, celle du 27 juin 2017, l'attaque NotPetya, c'est en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'on ait une idée simplement, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, de qu'est-ce que c'est que cette arme qu'est NotPetya ? On est à la base sur un ransomware, on connaît assez bien ces logiciels qui sont là pour vous demander de l'argent en échange de vous laisser vos données et de ne pas vous les pirater. C'est une attaque qui a été extrêmement destructrice.
C'est une attaque qui était extrêmement violente en Ukraine, qui a touché beaucoup d'infrastructures publiques, d'administrations. Et au départ, c'est un malware, voilà. Donc c'est une sorte de virus qui a pénétré les réseaux informatiques ukrainiens de dizaines d'entreprises. Et puis ce malware, au départ, on a cru que c'était un ransomware, c'est-à-dire que il était fait pour donner
pour obtenir
une rançon, obtenir de l'argent. Et puis en étudiant ce ransomware, les spécialistes informatiques se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait quasiment pas donner d'argent.
Et il était juste là pour détruire.
Pour détruire toute l'infrastructure des entreprises qui touchaient. Et ça a été extrêmement dévastateur en Ukraine. Et pour les Ukrainiens, tout de suite, on a accusé la Russie parce que on est sur une ligne de front en Ukraine. Vous connaissez le contexte. Il y a eu cette guerre en 2014, la révolution de Maïdan, avec des groupes pro-russes qui ont pris l'est du pays. Et là, on voit un nouveau type d'arme, d'une certaine manière, qui permet de détruire des infrastructures à l'intérieur du pays sans même déplacer un soldat. Et ça, c'est extrêmement nouveau.
Effectivement, c'est toujours le fond du problème en cybersécurité, en cyberguerre. C'est la question de l'attribution de l'attaque. Et quand même, on arriverait à attribuer l'attaque, ce qui est très difficile. Il reste toujours très compliqué de savoir qui est derrière. Donc vous commencez à essayer un petit peu de comprendre qui ils sont, mais surtout comment ils procèdent, ces mercenaires russes. Vous avez avec vous, vous l'avez cité, Jean-Marc, qui est votre expert en cybersécurité, puis vous rencontrez très vite ce personnage que vous avez baptisé Igor, c'est évidemment pas son nom, qui va être la personne qui va vraiment vous permettre de rentrer sur ces fameux forums du web parallèle où vous allez finir par, en tout cas, rentrer en communication avec des hackers russes.
Et vous dites très vite, mais en fait, pas si vite que ça. Ça a été un travail quasiment...
Très long.
D'une année, alors on a cherché beaucoup de choses pour rentrer. On savait qu'il y avait des forums sur lesquels on s'échange des malwares, où il y a beaucoup de choses qui s'échangent. Et on voulait rentrer pour voir, toucher de près, vraiment de manière concrète, ce qu'on pouvait trouver, et ce qui s'échangeait, et comment tout ça fonctionnait. Et on a cherché au départ des russophones. Beaucoup ont eu peur de venir travailler avec nous. Et après, on a cherché des spécialistes informatiques, comme Jean-Marc, par exemple. Mais Jean-Marc, il parlait pas le russe, donc c'était compliqué pour lui de nous accompagner. Et il a fallu fallu plusieurs mois pour trouver la personne qui à la fois avait les compétences linguistiques et les compétences techniques pour nous accompagner. Et ça, c'est vraiment 7-8 mois de travail. Quoi.
Alors, je dis ça, évidemment, c'est pas parce que je les connais et que j'utilise leur prénom, c'est parce qu'on est dans un monde où l'anonymat est, on va dire, la norme absolue. Vous tombez effectivement sur ce forum qui est incroyable, avec effectivement une assez belle vision de la manière dont ça fonctionne. Parce que quand on parle d'attaque, en fait, il y a plusieurs hackers à l'œuvre et surtout plusieurs stades, on va dire. Il y a des gens qui viennent, qui prennent les données, qui trouvent les failles. Parfois, on vous vend juste la faille. Parfois, on vous vend les données. Parfois, on vous vend... Qu'est-ce que vous trouvez, par exemple? Vous trouvez quoi sur ces forums? Qu'est-ce qu'ils vendent, ces hackers?
On est resté sur ce forum un mois environ. On trouve des accès, surtout. On trouve des accès à des infrastructures, à des entreprises et même à des intérêts d'État. Et la chose la plus incroyable qu'on ait vue, c'est les données de tout le système judiciaire d'un État américain qui était mis en vente 150 000 euros. Alors vous dites, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et en fait, voilà, tout est fait pour que la confiance se fasse entre les vendeurs et les acheteurs. Il y a un système, ce qu'on appelle d'escrocs, c'est-à-dire il y a des gens qui sont intermédiaires, qui récupèrent l'argent et qui le libèrent une fois que la personne qui achète a pu voir que ce qui était vendu était bien arrivé
à bon port chez elle.
Et du coup, à la fin, on voit marqué solde. Et là, on est sûr que ça a été vendu. Et par exemple, ces données du système judiciaire d'un État américain ont été vendues en quasiment 15 jours ou 3 semaines. Puis après, il y a beaucoup de choses. On a vu les données d'un opérateur téléphonique portugais. Et puis on a vu des données sur
le ministère de la Finance du Ghana,
incroyable,
par exemple. Voilà. Alors effectivement, ces accès, c'est, vous le dites, la question c'est qui les achète, on ne peut pas savoir. Ça peut être aussi bien les États, les entreprises qui elles-mêmes ont montré qu'elles ne sont pas vulnérables. Et ça peut être évidemment des gens qui ont envie de faire des malversations.
C'est justement ce qui est fascinant. Par exemple, ces données, elles étaient vendues par un groupe qui s'appelle Lampedusa. On peut penser qu'il est plutôt russe, puisque les gens qui composent ce groupe parlent très bien le russe. Un russe courant, nous a expliqué Igor, qui nous guidait sur ces forums. Mais il parle aussi très bien anglais, donc il peut aussi y avoir des personnes qui sont autour. Et surtout, tout est anonyme sur ces forums. Ça veut dire que le vendeur, on ne sait pas vraiment qui il est, et l'acheteur, encore moins. Et même le vendeur ne sait pas forcément à qui il vend. Et le premier acheteur, ça peut être la personne qui a été attaquée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien imaginer, on sait que les Américains, que les services de renseignement américains ont aussi pignon sur rue sur ces forums. Ils viennent surveiller ce qui s'y passe parce qu'il y a des choses graves qui s'y vantent. Et quand ils voient marqué système judiciaire d'un État américain, je pense qu'ils peuvent avoir les moyens eux-mêmes d'aller acheter en priorité ces données-là.
Évidemment, là, on croise toute une foule de personnages passionnants dans ce livre. On croise ce qu'on appelle les white hats, c'est-à-dire ces hackers blancs, ces hackers qui ne veulent pas faire du mal, qui parfois travaillent pour des services secrets ou pas, qui le font à titre bénévole ou pas. Mais pour rentrer, finir en fait dans cette question très idiote de qui sont ces hackers russes, Vladimir Poutine, on le sait, le dit toujours, mais ce n'est pas moi qui commande ces attaques. S'il y a des attaques, c'est simplement que les hackers que j'ai, ils sont patriotes. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui, vous, au bout de 2 ans d'enquête? On a compris qu'en fait, ce cyberespace russe, il est un peu différent d'une autre. Il a été très vite, très très fort dans les années 2000. Et d'ailleurs, les hackers russes et les hackers ukrainiens travaillaient main dans la main. C'était le post-URSS avec un cyberespace très criminalisé où l'État laissait faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est avec des hackers qui travaillent tout seuls en tant que patriotes? Est-ce qu'on est avec des hackers russes qui ont peur de leur État ou qui travaillent avec lui? Qu'est-ce que vous nous répondez à ça?
C'est un mélange d'un peu tout ça. Il y a des hackers qui sont indépendants parce que les hackers russes, ils sont pas forcément très différents des hackers français. Ils ont gardé cet état d'esprit indépendant.
Libertariens, d'aucun dirait.
Libertaires, etc. Ils aiment jouer de ces codes-là. Ils ont beaucoup appris aussi des hackers allemands, hackers français et occidentaux. Et à la fois, il y a toujours une fascination et un jeu avec le pouvoir. Et on imagine bien qu'en Russie, il est extrêmement difficile de garder son indépendance permanente vis-à-vis du pouvoir. Et le jeu est là, il est assez subtil et on le voit se dessiner par exemple avec un hacker qu'on a pu voir. Il y avait un procès qui s'appelle Konstantin Kozlovski et là vous rentrez dans un univers extrêmement étonnant, on est quasiment dans un univers de romans d'espionnage à la John le Carré, où à la fois les hackers peuvent devenir des agents de renseignement, et c'est extrêmement compliqué de savoir quelle est la réalité et le jeu. Ce qui est sûr, c'est que le FSB, les services de renseignement russes, ils ont des capacités techniques extrêmement fortes, qu'ils ont eux-mêmes des hackers dans leur service. On l'a vu parce que les services occidentaux ont réussi à le prouver récemment, notamment les services hollandais l'année dernière. Et ils ont une capacité vraiment très forte à utiliser ce terreau de hackers, un terreau cybercriminel qui fait la spécificité de la Russie, sans doute.
Merci beaucoup. Une dernière peut-être question. Vous les croyez, ces hackers, quand ils vous disent finalement ce qui s'est passé en Ukraine avec NotPetya, c'est 10% des ordinateurs du pays et des centrales menacées. Il y a même eu des problèmes potentiels. Il pourrait y en avoir avec Tchernobyl. Ça n'est qu'une répétition générale pour ce qui pourrait vous arriver, vous pays occidentaux, si la Russie un jour se mettait à vous vouloir du mal.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur cette ligne de front et qu'ils ont sans doute conscience avant nous du danger. Et ils nous le disent souvent, ils nous disent quand on était là-bas, ils vous répètent attention, ça peut vous arriver un jour. Et d'ailleurs, voilà, les Français aujourd'hui, comme beaucoup de pays occidentaux, commencent à se protéger. L'ANSSI, par exemple, en France, fait un énorme travail. Le ministère de la Défense également a embauché des cybersoldats. Donc oui, aujourd'hui, les États savent qu'ils peuvent être en danger. Il faut faire attention à cet engrenage.
Merci beaucoup, Étienne Huvert. Vous signez donc avec Boris Razon les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes. Les nouveaux mercenaires russes, c'est diffusé ce mardi, je crois,
à 22h25.
Sur Arte, à 22h25. On vous conseille vivement de lire et de regarder tout cela.